L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère, de la mer à la terre. Là, c'est plutôt la terre aujourd'hui. On retrouve nos partenaires de la Maison d'agriculture biologique et plus particulièrement du groupement des agricultrices et agriculteurs bio, par grand vent, par tempête même. Alors, elle est encore dans toutes les têtes, Kiaran, qui nous frappait le 1er novembre 2023, il y a donc un an. Elle nous a frappé durement les forêts, les habitations et les exploitations agricoles. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On va revenir sur les dégâts, sur les indemnisations ou pas, reçues par les productrices et producteurs en agriculture biologique, souvent de petites exploitations. C'est bien la question. Les assurances les concernent assez peu. Quant au fonds exceptionnel débloqué par l'État, eh bien, on va voir ça. Avec nous pour discuter de ce sujet, il y a Laurane Capelesso, qui est chargée de communication du groupement des agricultrices et agriculteurs bio et de la maison de la bio. Enfin, je crois les deux, c'est ça. Céline Guillou-Rouquet, maraîchère. Chère Akimère, vous la connaissez si vous allez sur le marché du fou. Et par téléphone, il y a Jeanne de Gude qui est herboriste à l'Opérette. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec vous, Laurane. Est-ce qu'on a une idée précise, chiffrée, du bilan de cette tempête sur les exploitations agricoles bio du Finistère?
En fait, ce qui s'est passé le lendemain de la tempête Ciaran, c'est que le GAP 29 a pris en fait le pouls de la situation des fermes bio du Finistère à travers un questionnaire qui leur a été envoyé.
Aux adhérents en fait, quoi, c'est ça. Ouais.
Aux adhérents et aux non-adhérents.
Ah oui, tout
là
le monde.
Pour le coup, toutes les fermes bio ont été contactées et ils ont reçu entre 150 et 200 réponses. Et statistiquement, c'est ça, c'est à peu près ce pourcentage-là de fermes qui a été vraiment impacté par la tempête. Et parmi ce pourcentage-là, il y a une surreprésentation des fermes maraîchères.
Ah oui.
De par leur installation, en fait. Des tunnels, des serres en verre, les fermes d'élevage qui ont des bâtiments en dur ont été de fait moins frappées. Le vent n'a pas fait se casser la pierre.
Il y en a quelques-unes quand même.
Il y en a quelques-unes.
Tout, ouais. D'accord. Et donc le chiffre, enfin je ne sais pas si vous avez un chiffre de dégâts matériels, si vous avez réussi à calculer ça au groupement des agriculteurs bio.
En termes d'argent, vous dites? Alors je ne saurais pas vous le donner. En termes de fermes impactées, en tout cas, on était à environ 150 fermes.
D'accord. Jeanne, alors vous nous entendez?
Oui. Oui, je vous entends, oui.
Très bien. Alors, vous êtes donc herboriste à l'Opérette. Enfin, décrivez-nous votre activité.
Alors, moi, je suis paysanne. Je cultive des plantes aromatiques et médicinales que je transforme après en plantes sèches, tisanes, sirops et sur une partie cosmétique, baume, savon, huile.
Et quand Kiaran est arrivée, qu'est-ce que vous en étiez où?
Alors, moi, je suis installée depuis 2021. Donc c'était assez récent, j'avais installé mon tunnel pour pouvoir monter la pépinière et faire des plantes sous abri au mois de juin, et la tempête est arrivée en novembre qui a suivi.
Et comment elle vous a frappé?
Eh ben, elle a détruit ma serre de 180 mètres carrés, voilà, tout était à terre.
Donc la structure et pas seulement la bâche, quoi?
Oui, non, tout, la structure, les arçons-pieds, bâches déchirées, plans dessous abîmés, voilà. C'était par terre.
Et alors, comment vous avez réagi sur le coup?
C'est d'abord un choc psychologique, puisque c'est quand même des mois de travail, un chantier collectif, de l'argent aussi, bien évidemment. Donc, c'est d'abord, on est très choqués. Hein, puis, j'ai été aussi très choquée parce qu'on a fait le tour des fermes voisines, parce qu'il y a pas mal de solidarité entre paysans. Donc, on a quand même été chez les uns, les autres, pour voir qu'est-ce qui se passait, là où c'était le plus urgent. Là où il fallait agir de manière plus urgente pour les maraîchers qui avaient vraiment des cultures importantes dessous. Donc c'était surtout le choc de voir tous les dégâts chez moi, bien entendu, mais aussi chez tous les autres paysans.
Et est-ce que vous étiez assurée, justement, la question d'assurance?
Alors moi, j'étais une des seules, je pense, du Finistère à être assurée pour mon tunnel, oui. J'avais pris une assurance pour mon tunnel puisque je m'étais dit c'est mon outil de travail et si je le perds, je perds énormément, quoi.
En effet. Céline, à la ferme de Quimère, c'était comment? À la ferme de Calers, pardon.
Oui, c'était la catastrophe. Quand on s'est réveillé, en fait, c'était le chaos.
Combien de tunnels vous aviez?
On en avait six. Donc 6, dont 2 petits. Et c'était vraiment incroyable. En fait, la forêt aussi, notre parcelle de forêt était par terre, les tunnels.
Tous les tunnels étaient par terre, oui.
Tous, sauf les 2 vieux qu'on avait débâchés.
Avec quand
même
en prévision.
Parce qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Kieran est arrivé, on avait un très bel automne, enfin un très bel été indien, on va dire, juste avant. Et donc, on avait des superbes légumes dans les tunnels. Donc, quand on a vu les prévisions, on s'est dit, on est quand même abrité, on est en fond
oui,
de vallée.
Oui, parce que c'est le fond de vallée, ouais, voilà.
Ouais, ça. Ouais. Mmh. Et on a tergiversé, on s'est dit, bon, allez, les 2 tunnels où les trucs ne sont pas terribles, allez, on les débâche. Mais les autres, on va attendre de voir, au dernier moment, les prévisions. Et en fait, on n'a pas eu le temps. On a eu peur, surtout, ça, c'était vraiment trop craignos d'aller autour des tunnels quand le vent était déjà fort, en fait. Et donc, on les a perdus complètement parce qu'ils étaient totalement écrasés, autant la structure que les bâches, hein, tout ce qu'il y avait dedans. Et c'était des années de travail.
Les légumes aussi, enfin, ils étaient abîmés.
Ils étaient très abîmés. Mmh. Et le hangar, il avait perdu des tôles et tout. Enfin, voilà. Et comme on vit en mobil-home, on se sentait hyper fragile, quoi, en fait. On était en plus complètement enclavé parce que des 2 côtés les accès à la ferme et à la maison, les filles, il y avait des fils électriques par terre, des arbres en travers de la route, donc on pouvait pas partir de chez nous et on n'avait ni eau ni électricité. Ça a duré 10 jours quand même.
Ouais. Et là on n'a pas envie de dire sur le coup je vais tout arrêter.
Non, parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, en fait. Mais c'était, en fait, d'ailleurs, on se dit rien. Enfin, on était choqués, on était vraiment en état de choc. On pensait à rien, quoi, en fait. Hein.
Et vous, Jeanne, vous n'êtes pas dit non, j'arrête là. En fait, c'était une mauvaise idée d'être herboriste.
Alors si, moi, je me suis dit que j'allais arrêter, que c'était le coup de trop, que déjà le démarrage d'une activité, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup de voilà. Et vraiment, moi, je me suis dit, c'est le signe, en fait, il faut que j'arrête, quoi. C'est pas possible. Si on a ça tous les hivers, ça va être compliqué de maintenir une activité agricole dans ces conditions-là.
On va voir quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place tout à l'heure. Laurane Capelesso, est-ce que vous aviez, parmi les autres échos que vous avez eus, est-ce qu'il y a eu carrément, enfin, je sais pas, des gens qui ont arrêté, en fait, de fait ?
On a noté, en effet, quelques arrêts suite à ce drame. Néanmoins, pas tant. En réalité, on a fait une enquête, en fait, il y a un petit mois de cela, au 1 an de la tempête Kieran, pour demander un peu, pour refaire un état des lieux de la situation actuelle des fermes impactées. Et en dernière question, on demande aux paysans et aux paysannes comment ça va et ce qu'ils ont pu mettre en place au regard des dérèglements que le changement climatique impose. Alors, il y a une majorité de personnes qui indiquent aller bien, aller mieux. Il y en a quand même un tiers qui indique une fatigue, voire une très grande fatigue.
Voire une dépression aussi.
Oui, il y a eu des burn-out suite à ça. Déjà que l'activité par elle-même, elle n'est pas simple.
Oui. C'est quand même très dur, surtout le maraîchage d'ailleurs.
Donc on ajoute un coup.
Et puis il y avait la crise de la bio, qui est toujours là d'ailleurs.
Oui, il y a une espèce de concordance de situation naze qui font que c'est compliqué pour chacune et chacun. Et donc oui, il y a eu quelques arrêts, mais ça reste quand même un nombre minoritaire par rapport à la résilience et à la volonté d'adaptation des maraîchers et des maraîchères face à cette situation-là.
Alors, les indemnités, les assurances, on en a un petit peu parlé avec Jeanne de Gude. Vous, si vous aviez décidé de vous assurer, ça veut dire que ça vous coûtait cher. Comment vous avez fait ?
Alors, en fait, c'est quand j'ai souscrit mon assurance professionnelle. Bien sûr, on a vu avec l'assureur, on a passé en revue tout le matériel que j'avais sur ma ferme. Mon assureur était il me semble que c'est un des seuls à proposer une assurance pour les tunnels type froid, dit froid. Comme les tunnels maraîchers, parce que ça arrive assez régulièrement qu'on ait des dégâts sur ce genre de tunnel l'hiver. Donc les assurances ne proposent pas d'assurer ce genre d'équipement. Et quand moi l'assureur me l'a proposé, alors je pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais ça me coûtait pas beaucoup plus cher d'assurer ce tunnel-là au regard du prix du tunnel que j'avais acheté d'occasion, mais de la bâche qui était neuve et de tout ce qui était investi autour. C'est un outil de production, donc en dehors de son coût en tant que tel, c'est aussi ce qui permet de développer l'entreprise. Donc je me suis pas vraiment posé la question parce que moi, c'était mon seul tunnel et mon seul outil de production. Voilà.
Oui. Céline, Guillaume, vous étiez assurée, non pas ?
Non, on n'était pas du tout assurée pour les tunnels. Alors, par contre, chez nous, il faut savoir que c'est des petits tunnels quand même, en fait. Enfin, des tunnels de faible largeur, du type fraisier, des 4,50 m ou 5 m. Donc, c'est pas des... c'est des structures beaucoup moins lourdes, beaucoup moins difficiles à monter, beaucoup moins chères. Ah ouais. Et puis aussi qu'on a la qualité, on va dire, de pouvoir être déplacé assez facilement et débâché très vite, en fait. Donc, voilà, je dis pas que je réagirais de la même façon si y a de nouveau un gros coup de vent annoncé comme ça, mais en tout cas, on a gardé par contre les mêmes styles de tunnels qui étaient des investissements vraiment moindres par rapport à un bitunnel, par exemple. Et puis, pour le reste, on était assurés comme monsieur et madame tout le monde, hein, sur les bâtiments.
Oui,
et,
pour le hangar quand même.
Ouais, les hangars, et l'assurance a donné une indemnité pour la forêt. Qui est complètement...
Ah oui. Ouais. Ah oui, ça... Alors, c'était assuré. On peut assurer une parcelle de forêt. Ah
ouais. Je ne savais pas.
OK. Non. Bon. Lorraine Capelesso, qu'est-ce qui existe justement pour ces petites structures en matière d'assurance ? On a l'impression qu'il n'existe pas grand-chose.
Bah, c'est vrai, il n'existe pas grand-chose. Et en fait, j'ai l'exemple d'une ferme en fait, à Gouénou où Avery de la ferme Le Gouénou qui a cherché à assurer ses 4 tunnels en installation. Elle a fait 2 devis auprès de 2 assurances elle a fait des demandes de devis auprès de 2 assurances et elle n'a jamais eu de réponse. Donc il n'y a pas, quelque part, il n'y a pas une volonté de non assurer de la part des maraîchers et des maraîchères, mais il y a surtout une non prise en compte de ce type de structure par les assurances elles-mêmes. Et ça, c'est une des demandes du GAB 29, un an après la tempête, à se dire, mettons-nous autour d'une table et réfléchissons ensemble à ce système assurantiel qui est un peu bancal pour ce type de structure qui, dans ces moments-là, sont les plus à risque.
Oui, voire totalement défaillants. Et alors, les indemnités, par contre, je ne sais pas comment on peut dire, prêts exceptionnels, qu'est-ce que l'État, la région, le département ont proposé suite à la tempête Kieran aux agriculteurs bio spécifiquement ?
Alors, il y a eu des aides de mise sur la table, des annonces faites assez rapidement après la tempête, mais une mise en application de ces aides très tardive. Elles sont arrivées en février. Et on peut noter même un peu des trous dans la raquette, à savoir que les paysans et les paysannes se sont très vite remobilisés pour recréer leur terrain de travail, en fait, leur outil de travail. Et du coup, certains ont pu faire des travaux avant la date clé qui avait été posée par le gouvernement pour pouvoir accéder à ces aides et se retrouvent aujourd'hui un peu bloqués de ne pas pouvoir bénéficier de ces aides parce qu'ils ont finalement racheté des choses avant ou etc. Et il y a une deuxième chose, c'est que les aides pour les maraîchers, les jeunes installés en tout cas, les jeunes agriculteurs et les jeunes agricultrices, elles viennent au détriment de ce qu'ils ou elles pourraient recevoir de par leur nature de jeunes installés.
Ah oui.
Du coup, ce système d'aide, en fait, il est un peu pareil, bancal.
Décidément.
Décidément. Et un an après, malgré les requêtes faites par le GAB 29 et d'autres structures, évidemment, on remarque que les curseurs n'ont pas tellement évolué. Donc, on est encore aussi dans cette demande à... augmenter ce qu'on appelle dans le jargon le plafond des minimi pour que les agriculteurs puissent bénéficier de plus d'aide dans ces moments de crise et aussi de une nécessité à raccourcir les délais de mise en action de ces aides qui ont été trop longs à ce moment-là et qui ont pénalisé certains et certaines.
Et il y a eu des aides exceptionnelles dans la région, du département ou pas ?
Alors j'aurais du mal à rentrer dans un détail extrêmement précis des types d'aides pour le coup.
Mais il y en a eu quelques-unes.
Il y en a eu. Ouais. Y en a eu.
Céline, donc pas d'assurance, mais des aides quand même. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir des aides ?
Déjà, on n'a pas commencé à remonter les serres tout de suite en se disant ils vont nous tomber dessus, c'est sûr, il faut attendre. Voilà. Mais bon, ceci dit, je trouve que c'est pas juste pour ceux qui ont voulu faire à manger, enfin, produire à manger très vite.
Ouais, parce que ça veut dire renoncer à la production.
Ouais. Donc voilà, nous on a fait comme ça parce qu'on s'est dit que c'est de la stratégie à avoir, mais bon voilà. Et sinon, en fait, on a eu donc 65% des aides aux investissements. Donc ça, c'était ce qui était annoncé, sachant que nous on avait comme des petits investissements par rapport aux tunnels qui sont beaucoup moins coûteux que les que des gros bitunnels. Et on a eu des aides à la trésorerie. Donc, faut savoir que les aides à la trésorerie, effectivement, ça a un impact sur, les crédits d'impôt, par exemple, qu'on va toucher cette année. Et parce qu'il y a cette histoire de minimi qui doit être de à peu près 20 000 euros sur 3 ans, je crois. Donc, voilà.
Si vous touchez les aides, en fait, du coup, vous n'avez plus les exonérations que vous aviez avant.
En
fait, si vous atteignez le plafond des 20 000 euros, bah, du coup, le crédit d'impôt n'aura pas lieu. Quoi.
Je comprends.
Ouais, voilà. Et puis, ça a été comme le parcours du combattant. Alors, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui note tout et qui est assez...
rigoureux.
Qui est très rigoureux. Donc, du coup, on a été capable, avec un gros travail quand même, de détailler tout ce qu'on avait perdu et de façon assez fiable. On a fait selon nos calculs à nous, selon les calculs qu'on trouvait ailleurs. Et voilà. Et on a présenté un dossier... c'était la DDTM, qui était impeccable ouais. En fait. Et ils nous l'ont dit d'ailleurs, votre dossier est impeccable. Mais malgré tout, on n'a quand même pas touché les aides tout de suite non plus parce qu'il y avait un petit truc qui coinçait. C'était à propos de notre numéro de Sirette qu'ils n'arrivaient pas à lire. Voilà, on les a touchés il n'y a pas très longtemps.
Sans commentaire. Jeanne de Gude, vous, comment est-ce que vous avez touché? Quelles aides vous avez pu toucher? Quel impact ça a eu?
Alors moi, j'ai pas pu toucher l'aide au matériel parce que j'avais une partie qui était prise en charge par mon assurance et que le reste, en fait, faut savoir qu'il y avait une aide plancher qui était de 1 000 euros et que si on avait besoin de un peu moins de 1 000 euros, eh ben on nous donnait rien. Voilà, ça c'est un peu le côté bizarre de certaines aides hein, quand on met des aides planchers. Et du coup, c'est souvent les plus petits qui sont impactés. Voilà, par contre, j'ai eu droit à l'aide à la trésorerie. Effectivement, ces aides sont soumises aux aides à minimi, comme expliquait Céline. Voilà, par contre, ça a été beaucoup de temps pour éplucher les dossiers, pour comprendre les documents. Moi, j'ai passé énormément de temps là-dessus, puisque je n'ai pas de comptable, donc je ne suis pas aidée par quelqu'un qui connaît un peu tout ce genre de documents administratifs. Voilà, mais j'ai quand même pu toucher l'aide à la trésorerie qui n'était pas soumise à certaines conditions comme l'aide au réinvestissement matériel.
Et vous avez calculé le temps que vous avez passé pour le remplissage des dossiers?
Ouais, ça se compte en plusieurs jours de travail parce que c'est pas tant le remplissage, c'est qu'il y avait beaucoup de documents à lire, de choses à comprendre, de coups de fil à passer, on appelait les copains maraîchers, vous avez compris quoi et ça se passe comment, etc. Donc moi j'ai passé plusieurs jours là-dessus, oui, parce que c'est pas mon métier en fait de d'éplucher tous ces documents et de comprendre de comprendre comment ça se passe quoi.
Céline, pareil, plusieurs jours, j'imagine.
Oui, et puis sans compter les manifs auxquels on a dû participer, parce que ça ne s'était pas gagné d'avance, ces aides, en fait. Il a fallu qu'on se fasse entendre, alors que pourtant, ces histoires de serre, tout le monde les a vues aux infos. Notre président, il est arrivé, il a dit qu'on aurait des aides tout de suite. Voilà. Et en fait, il a fallu quand même se mobiliser. Et ça, c'est une énergie qu'on n'a pas forcément dans ce genre de situation, en fait.
Peut-être que ça aide, au contraire, de ce... Non ? Oui, pas forcément.
Oui, ça aide.
Se retrouver ensemble.
Le souci, c'est que il y avait les mobilisations, on va dire, conventionnelles, et puis il y avait les mobilisations des gens de la bio, qui étaient déjà très fatigués, c'était des toutes petites mobilisations, et ça faisait un peu mal au cœur de voir que c'était des petites mobilisations, justement, en fait.
Le GAB a un rôle, Lorraine Capelesso a un rôle d'assistance technique. Enfin, comment vous avez fait pour faire face à cette crise et répondre, j'imagine, aux multiples demandes?
Du coup, il y a eu plusieurs directions prises à ce moment-là, à savoir assurer en effet une aide technique et de mise en relation aussi. On parlait de solidarité avant l'émission, et c'était ça, c'était créer aussi des points de rencontre en fait entre des personnes volontaires qui voulaient venir aider sur les fermes. Et le GAP 29 a mis en place aussi une cagnotte, donc qui a récolté pas loin de 24 000 euros. Donc c'était pareil, des acteurs de la bio, des acteurs pros de la bio qui ont participé, mais aussi beaucoup de gens comme vous et moi.
Donc là, c'est une cagnotte de dons, hein, c'est ça ?
Oui, ouais. Là, on est vraiment sur, sur une solidarité en fait, collective à destination des agriculteurs et agricultrices bio. Et l'idée, ensuite, c'était de pouvoir définir comment, qu'est-ce qu'on faisait de cet argent. Et a été décidé collectivement d'en faire bénéficier des fermes, comme je le disais, maraîchères, des jeunes installés, parce que la trésorerie manque à ce moment-là, et ce plafond des minimi dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a eu 9 fermes à pouvoir bénéficier d'une partie de cette cagnotte-là, dont la ferme de Jeanne.
Oui, c'est Jeanne, c'est la question que j'allais poser sur les dons. Vous en avez eu, donc, apparemment.
Alors voilà, moi je me suis posé parce que certains ont fait des cagnottes en ligne assez vite après la tempête pour pouvoir reconstruire chantier collectif, parce que ça aussi c'est pas du monétaire, mais c'est quand même de quelque chose qui compte. Je me suis posé la question, j'avais pas ni l'énergie ni le temps pour faire ça, et effectivement on a pu s'appuyer sur des structures comme la Confédération Paysanne et le GAB qui a organisé cette cagnotte là, dont j'ai pu bénéficier, et ça a été vraiment un bol d'air voilà, c'est arrivé à un moment où c'était au printemps dernier, si je me souviens bien, printemps dernier. Voilà, ça m'a permis, moi, de pouvoir continuer, d'avoir de la trésorerie pour pouvoir réinvestir et continuer mon métier, en fait.
Oui, ça vous a dissuadé d'arrêter, en tout cas.
En tout cas, oui, et c'est vrai aussi que j'ai pu bénéficier d'une aide de la MSA, qui est une aide au répit, souvent que les paysans ne connaissent pas.
MSA, c'est la sécu des agricultrices et des agriculteurs.
Voilà, c'est ça. Donc c'est une aide qui n'a rien à voir avec la tempête. C'est une aide dont on peut bénéficier quand effectivement on est à bout, parce que c'est des métiers épuisants physiquement, moralement. Donc en fait, toutes ces aides conjointes m'ont permis de pouvoir me relever et de dire « Ok, je continue, j'avance, quoi. » Et on y va.
Et le GAB, vous avez appris des choses grâce à la tempête Ciaran, enfin en termes de, je sais pas, de réponse au dossier, par exemple, ou de...
Ça déjà. Alors, oui, évidemment. Donc il y a eu des apprentissages de fait et une capitalisation aussi de tout ça, parce que on peut craindre que ça ne survienne de nouveau. Donc, et je rebondis sur ce que disait Jeanne. La MSA, elle propose aussi des séances avec des psychologues. Donc quand on sait que... on peut imaginer que la tempête a eu un choc post-traumatique sur certaines personnes. Il ne faut pas hésiter, en fait, à contacter ça. Je crois que c'est 5 séances. On va essayer là de créer un petit dossier pour permettre à chacune et chacun d'avoir les bons contacts. Mais c'est hyper important de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et là, sur le questionnaire qu'on vient de lancer, il y a eu 120 réponses. Et il y a un quart des personnes contactées qui souhaitent que le GAB 29 rentre en contact avec elles suite à cette situation-là. Donc voilà, il y a un accompagnement à donner post-tempête. Et ça aussi, on l'a appris et on le prend bien en compte.
Et on n'est pas tout seul, Céline Guillouroux. Il y a une brigade des maraîchers que vous avez créée, c'est ça, dans le coin, à Quimer et alentour.
Oui, c'est ça. On s'est unis sur 3. Enfin, unis, c'est il y a rien de formel, hein, en fait. Mais pour s'entraider, on a 3 fermes. Il y a celle de Pierre, jeune installé depuis 2-3 ans, je crois, sur la commune de Rosnoën en maraîchage. Et celle de Lucie, qui fait des fleurs. Sur Rosnoën aussi, voilà. Et l'idée, c'est de se serrer les coudes, de s'entraider sur des chantiers qui sont parfois un peu longs à faire tout seul, à tour de rôle sur les fermes, et aussi peut-être de s'organiser pour prendre des vacances, d'avoir quelqu'un qui sache justement...
Un remplaçant de confiance,
ça,
en fait.
Bon, c'est pas vraiment remplaçant, mais c'est sur des périodes où justement il y a beaucoup moins de travail, où par contre il y a sûrement des tempêtes.
Oui, c'est ça.
Et savoir anticiper un petit peu, débâcher. Voilà.
Ça, c'est une des solutions, justement, pour faire face aux prochaines tempêtes, c'est ça ? Il y en a d'autres, peut-être ?
Oui, et puis d'avoir un réseau. Je pense que pour faire face aux prochaines tempêtes, il faut avoir. Et un réseau de soutien, on va dire, et un réseau aussi d'artisans, voilà, des contacts.
Pour les réparations.
Oui, ouais. Ouais.
Lorane,
ouais. Oui, certains maraîchers et certaines maraîchères ramenaient aussi un peu des solutions qu'ils avaient mises en place sur leur ferme suite à la tempête. Ça va être que des choses de bon sens, hein. En réalité, c'est replanter des haies qui jouent un rôle de brisement important. Ça va être planter des arbres. Il y en a un maraîcher aussi...
Mais des arbres qui ne tombent pas trop facilement.
Oui, bon.
Mais non, mais c'est ça, il faut choisir ses essences aussi.
Oui, aussi. Ouais. C'est aussi... il y a une personne qui pointait du doigt le fait de questionner en fait la culture sous serre, ou sous tunnel, de ne faire que des légumes en plein champ. Mais voilà, c'est
pour
plein
les tomates,
de...
c'est pas évident.
Non, non, ça implique beaucoup de choses derrière, mais en tout cas, il y a une volonté collective et commune de trouver des solutions, et il y a pas du, enfin, c'est plutôt optimiste, quoi.
On va rester sur cette note positive. On va vous remercier beaucoup car c'est la fin de l'émission. À bientôt. Merci Jeanne.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.